franceinter.fr.
À la une de la science, aujourd'hui, les maladies rares, des maladies dont le diagnostic est souvent difficile à établir et qui entraînent un parcours médical long et pénible pour les patients.
Ça s'est rapproché de plus en plus souvent des accès de fièvre le week-end inexpliqués, des douleurs abdominales. Pareil, inexpliqué, tout était inexpliqué de toutes les manières. Il a eu 8 ans, puis 9 ans, puis 10 ans. Et puis le temps a passé, donc ça s'est aggravé. Donc on a commencé par le médecin traitant qui nous a envoyé voir un, puis deux, puis trois, puis quatre spécialistes complètement différents. Personne n'a trouvé.
Une mère dont le fils est atteint d'une maladie rare, la maladie de Fabry, et qui nous faisait part de son désarroi face aux difficultés avant d'établir le bon diagnostic. Les maladies rares touchent près de 3 millions de Français et 30 millions d'Européens. Pour en parler, à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée, nous recevons aujourd'hui Nathalie Triclin. Vous êtes vice-présidente de l'Alliance Maladies Rares, qui réunit quelques 200 associations de maladies en France. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous par téléphone, le docteur Célia Crétol, chirurgien, pédiatre à l'hôpital universitaire Necker, enfant malade de Paris, co-coordinatrice du centre de référence Le Marais pour les malformations anorectales et pelviennes rares. Et vous êtes également animatrice de la filière Neurosphinx. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors on va commencer par essayer de définir un peu les choses peut-être, Nathalie Triclin. Qu'est-ce que l'on regroupe exactement sous ce terme de maladie rare ?
Si on parle de la journée internationale, c'est de mettre en lumière toutes les personnes atteintes de maladies rares en France et dans le monde. Pour expliquer, essayer de sensibiliser le grand public à ce qui peut se traduire derrière les maladies rares, c'est-à-dire un manque de prise en charge, une errance diagnostique, un isolement social, professionnel, et tout ce qui suit derrière quand on n'a pas de diagnostic et qu'on est atteint d'une maladie rare.
C'est pour qu'on se rende compte, une maladie rare en moyenne, c'est combien de personnes touchées en France ?
On dénombre aujourd'hui entre 6 000 et 8 000 personnes en France. Ce sont des maladies graves, invalidantes, que personne ne connaît.
Donc 6 000 et 8 000, ce sont le nombre de maladies rares qui ont été recensées. Les personnes touchées, en moyenne, ça correspond par maladie. On a 600 personnes, 600 cas pour chaque maladie que l'on peut trouver.
Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça, en fait. Les personnes atteintes de maladies rares, à 98%, n'ont pas de traitement. Il n'existe que 200 traitements dans les maladies rares. C'est ça qui est important à retenir, surtout. 200 traitements pour 8 000 maladies rares aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très peu, quoi.
Catherine de Copé.
Oui, docteur Célia Crétol, si on essaie de décrire un petit peu la variété de ce que représentent aujourd'hui les maladies rares, aujourd'hui ça touche tous les âges de la vie, ce sont des maladies qui sont visibles ou non et qui peuvent toucher, occasionner tout type de pathologie. Hein. Vous pouvez nous donner un petit peu une idée du panel, de ce que ça représente ?
Il est extrêmement large, en fait. 80% des maladies dites rares, donc moins de 1 cas sur 2000, hein, c'est une définition, dans la population générale, sont d'origine génétique. Donc, en général, elles se révèlent dans les premiers instants de vie, parfois dans les premières semaines, les premières années, parfois plus tard. Et puis, il y a d'autres maladies qui ne sont pas d'origine génétique, qui sont classées également dans les maladies rares, comme des formes de tuberculose, de polio, par exemple, très rares. Donc, ça fait un panel extrêmement large et ça touche effectivement tous les âges de la vie. Et je dirais d'autant plus, heureusement, finalement, c'est qu'on les soigne quand même de mieux en mieux, même si, comme le dit Mme Triclin, il n'y a pas énormément de traitements. Et donc, c'est des enfants qui vont grandir et on en a de plus en plus, des adultes qui ont des maladies rares.
Alors, le collectif Alliance Maladies Rares a publié donc récemment une enquête réalisée auprès des malades, une enquête qui met en exergue l'errance diagnostique. Vous allez nous expliquer ce que c'est, mais on peut déjà peut-être souligner à quel point cette enquête est complète. C'est peut-être l'une des plus complètes faites en France à ce jour.
Oui, on vient de publier une enquête sur l'errance diagnostique qui est inédite au niveau européen et international. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce que elle se fonde sur un échantillonnage représentatif de toutes les maladies rares. C'est très hétérogène. Cette enquête unique nous permet de mesurer pour la première fois et précisément la réalité de ce que vivent les personnes atteintes de maladies rares en termes d'errance diagnostique en France, de nous permettre d'avoir une photographie précise de ce qu'elles vivent, en fait.
Et apparemment, ce qu'elles vivent, c'est compliqué. C'est ce que vous nommez cette errance diagnostique. Il faut comprendre ce que c'est que cette errance pour les malades.
Alors, l'errance diagnostique, c'est le délai nécessaire avant qu'une personne malade puisse accéder à la bonne expertise en capacité de diagnostiquer sa maladie. Mmh. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs constats alarmants par le biais de cette enquête. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, la recherche du diagnostic dure au moins un an et demi. Comme vous le disiez tout à l'heure, une grande majorité des malades ne dépassent plus de 5 ans pour plus d'un quart d'entre eux. Et c'est vraiment inacceptable qu'en 2016, nous ayons plus d'un quart des personnes atteintes de maladies rares en France qui attendent 5 ans pour avoir un nom sur leur maladie.
Il faut comprendre le désarroi de ces patients qui souffrent d'un mal et qui vont de médecin en spécialiste sans comprendre ce qui les concerne parce qu'ils sont affectés par une maladie rare. Catherine de Copé.
Alors ce que pointe également l'enquête d'Alliance Maladies Rares, c'est l'erreur de diagnostic qui touche aujourd'hui 37% en tout cas des malades interrogés par votre enquête. Docteur Célia Crétol, que peuvent être les conséquences de ces erreurs de diagnostic? Elles peuvent être dramatiques et c'est ce que vous dénoncez aujourd'hui, vous et les malades.
Ah oui, c'est des retards diagnostiques et du coup des potentielles complications qui peuvent apparaître dans l'intervalle, des diagnostics qui sont faits en urgence, dans des mauvaises conditions, à retardement, au stade de complications parfois. Et évidemment, des prises en charge qui sont d'autant plus compliquées. Je souligne quand même que depuis 10 ans, je m'occupe de maladies rares. Le délai d'errance a diminué grâce aux 2 plans maladies rares successifs. Donc, il faut quand même le souligner. Mais il est encore inacceptable, ça c'est vrai. Moi, je m'occupe de malformations. Donc, c'est des anomalies visibles à la naissance pour la plupart, mais beaucoup de maladies rares sont invisibles. Et c'est tout le problème de ces diagnostics qui peuvent errer pendant des années.
Catherine.
Nathalie Triclin, ce que vous dites aussi par rapport à ces erreurs de diagnostic, c'est que finalement elles ont des préjudices très conséquents sur le plan psychologique, mais aussi sur la prise en charge d'une famille entière quand il s'agit par exemple d'une maladie génétique. On prend énormément de retard.
Oui, on prend énormément de retard parce que du coup ça retarde l'entretien avec le conseiller en génétique pour aussi faire l'enquête familiale derrière. Et donc ça peut poser beaucoup de problèmes après et mettre même la vie en danger des personnes.
Alors aujourd'hui, que reste-t-il à faire? On le sent, il y a eu des plans, des améliorations, mais ça n'est pas encore parfait. Comment faire pour que les médecins, on peut aussi comprendre que pour des médecins, c'est difficile d'avoir en tête toutes ces maladies qu'ils ont peut-être une chance de croiser une fois dans leur carrière.
La première chose qu'il faut impérativement défendre en amont, c'est d'informer et de former. Notamment les médecins généralistes sur ce que sont les maladies rares. Nous défendons, nous, à l'Alliance Maladies Rares, depuis 15 ans, la fameuse culture du doute. Et si c'était une maladie rare, et ça, c'est extrêmement important pour nous. Parce que si le médecin commence à penser, et si c'était une maladie rare, du coup, ça risque d'aller un peu plus vite.
Donc, ça passe par la formation. D'autres choses pour conclure, docteur Célia Crétol?
Je pense qu'aussi il faut travailler sur où aller chercher l'info. Effectivement, on ne peut pas imaginer que chaque médecin traitant puisse connaître les 7000 maladies rares décrites, mais au moins qu'il sache où s'adresser. Et il y a un maillage territorial grâce aux 2 plans maladies rares successifs avec des filières. Maintenant, tout ça s'est organisé, mais je pense qu'il y a encore un effort à faire, même au niveau des études médicales, pour informer les jeunes et les moins jeunes où chercher l'info. Alors, il y a le site Orphanet. Il y a des collectifs, l'Alliance Maladies Rares, Solidarité Handicap, mais c'est vrai que je pense que ça ne suffit pas et que on a encore beaucoup de travail, comme le montre l'errance diagnostique.
On mettra en lien évidemment les sites que vous venez de citer. Un dernier
il
mot.
Il y a aussi Maladies Rares Info Service pour le malade qui a une très grande écoute et qui est très important pour le malade, qu'on peut contacter au 01 56 53 81 36.
C'est dit. Merci Nathalie Triclin et Célia Crétol pour vos précisions. Catherine de Copé, à demain.
À demain.
Merci à vous.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une mystérieuse onde radio émise d'une galaxie lointaine de 6 milliards d'années-lumière qui vient d'être détectée. Un radiotélescope australien a repéré le 17e sursaut rapide que l'on ait enregistré à ce jour. En une milliseconde, ces sursauts émettent autant d'énergie que le Soleil en 10 000 ans. Les spéculations vont bon train sur leur origine. Certains scientifiques pensent qu'elles pourraient résulter de la fusion d'étoiles à neutrons, ces astres minuscules mais très denses. D'autres imaginent même qu'elles pourraient être des signaux émis par des extraterrestres. Les chercheurs restent à l'écoute en espérant bientôt pouvoir entendre un à plusieurs sursauts radio par jour. Les fast-foods et les sodas seraient aussi nocifs pour l'érection que le tabac. Les matières grasses, le sel et les sucres s'infiltrent dans les parois artérielles pour se loger jusque dans les tissus du pénis, troublant les mécanismes de l'érection. Et une étude turque a même montré que lorsqu'ils sont sérieux, ces troubles sont généralement suivis d'un accident cardiovasculaire dans un délai de 3 à 5 ans. Une raison de plus pour les hommes de manger équilibré. Des scientifiques de l'ONU ont évalué l'impact du déclin des abeilles, des oiseaux et des papillons sur la production agricole. La plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques estime que 3/4 du rendement des cultures mondiales est dépendant des pollinisateurs. Or, aujourd'hui, 16% des pollinisateurs vertébrés, comme les oiseaux et les chauves-souris, sont menacés d'extinction. Pour les insectes, aucune étude n'a encore pu évaluer précisément ce chiffre, mais près de 40% d'entre eux seraient en voie de disparition. Ce constat alarmant remet en cause la culture intensive des terres et le réchauffement climatique.